L'encadrement, c'est les transports, c'est l'hébergement, la nourriture. Ils sont confrontés. Donc déjà, là, ils vont gratter l'uniforme, ils le donnaient. Maintenant, ils le laveront ou je ne sais pas quoi. Oui. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que, mais comme on sait qu'il y a beaucoup...
Il faudra qu'ils le rendent, l'uniforme.
Il faudra qu'ils le rendent.
Alors que là, ils le gardaient pour aller aux cérémonies, etc.
Mais en fait, comme on l'a vu pour Parcoursup et pour toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'impensés aussi. Parce que ils veulent le faire, il y a Macron a dit il faut le faire, donc ils vont le mettre en place, mais il y a beaucoup d'impensés et d'impréparation, donc ils vont être confrontés à chaque étape à des grosses difficultés on l'a vu, parce que pour l'instant il y a eu quand même très peu de jeunes qui ont fait le SNU. Et ils veulent passer à une massification du SNU.
Ils ont parlé de 80 000 cette année.
80 000 cette année. Ils veulent passer de 80 000 à 800 000. Ils n'ont jamais atteint
d'ailleurs le chiffre qui s'était donné.
Je crois que c'était 40 000.
Au début, c'était 2 500. Voilà. Après, ils avaient prévu 50 000. Ils ont fait 30 000. Après, ils ont fait 60 000.
Je crois que c'est 40 000.
Mes chiffres sont faux. En 2020, j'ai 2000 volontaires sur les 30 000 attendus. 2000 sur 30 000.
Oui, mais en 2020, c'était le Covid.
Oui, c'était le Covid, mais je crois qu'après...
Ils l'ont fait qu'en Nouvelle-Calédonie.
Donc c'est vrai que 2000, c'est quand même beaucoup. Et sur 2021, j'ai 18 000 sur les 30 000 attendus. Donc ils avaient
mais je crois qu'ils sont passés à 40 000 après, mais ça reste quand même... ça ne va pas se passer aussi simplement. Et on sait déjà qu'il y a eu énormément de dysfonctionnements, que ce soit sur les transports, que ce soit sur l'encadrement. Donc en fait, ils vont multiplier les problèmes. Pour l'instant, c'est de la com.
Il y a un truc qui est fort quand même avec globalement tout ce que fait Macron, c'est que comme tout est fait de briques, de brocs, mi-association, mi-local, etc., en fait, ça va être compliqué de dénoncer les dysfonctionnements du SNU. Pour nous, le SNU est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il prépare la guerre. Mais même ceux qui disent pourquoi pas, le SNU c'est sympa, il y a des trucs qui vont être complètement n'importe quoi, mais comme chaque endroit, ça va être telle association, telle personne, tel truc, il n'y aura pas de critique générale du fonctionnement, parce que chaque truc sera hyper différent.
Alors Samuel, excuse-moi, mais nous arrivons à la fin de notre émission, donc on va être obligé de conclure en faisant encore une petite pub. Parce que ce que vous avez dit aujourd'hui, vous allez le développer justement, Aurélie et Samuel, et bien d'autres. Vous allez le développer donc dans votre réunion publique.
Et on a dit un dixième, même pas, de ce qu'il y a. En fait, il y a énormément de choses
à dire.
Alors,
je vois information sur le SNU et les collectifs non-hostus région parisienne, actualité dans les lycées et classes engagées, prise de parole de lycéens, de profs, de travailleurs ou travailleuses associatives, présentation d'une cartographie visant à visualiser les liens tentaculaires tissés à notre insu entre l'armée et la jeunesse, dont le SNU ne semble être qu'une partie émergée. Interpellation et moyens d'action contre le SNU. Voilà. Alors maintenant, je ne peux plus vous donner la parole parce que malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Vous voyez, on a 1h30, mais c'est toujours trop court. Et là, je dois simplement annoncer aussi quand même qu'à la librairie Publico, le 25 novembre à 16h, on va reprojeter, on va refaire une projection de débat, alors avec une petite vidéo, et puis les gens vont en parler aussi, donc à la librairie Publico. Et maintenant, il me reste à remercier Frédéric. On va renvoyer peut-être une dernière chanson de Bernard Lavillier. Non, il vaut mieux pas.
Le camarade de la technique doute.
On va annoncer la prochaine émission qui vont prendre le relais. Voilà, merci beaucoup.
Oui.
Aussi noir qu'une Guinness, il faut que tu reviennes tout de suite, ou c'est la mort subite. Avant qu'on mette en bière, que la mort fasse son affaire, servez-moi une dernière mousse. Depuis toujours je t'aime, bien plus que la frigaine. Et tu sais bien que la Sedan, bière de l'Est, je suis né dedans. Demain je te jure, je m'y mets. J'arrête même la chimère à l'abbaye d'Orval. Je ferai plus le cérémonial devant une Grimbergen. Tant pis si j'ai la haine. En demi, en pinte, en baron, je toucherai plus au houblon. T'auras été plus fort qu'un pack de 12 Belfort. Je serai plus qu'à Magétis. Parole de moine trappiste. Avant qu'on me mette en bière, que la mort me fasse son.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, Radio Libertaire, de nouveau dans les studios, en public, en direct, pardon, en live, avec un tonnerre d'applaudissements. Numéro du studio, 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40, je le répète toujours, encore et toujours, allez sur le site de la radio, radiolibertaire.org, je crois, maintenant, où ça a changé, je ne sais plus. Enfin, vous tapez Radio Libertaire, vous allez sur le site. Il y a l'agenda sur lequel les émissions sont mises à jour. Il y a évidemment le podcast sur lequel vous avez la possibilité de réécouter ou d'enregistrer l'émission pendant 12 mois à partir de la fin de sa diffusion. Vous avez ma page Facebook Yves Jazzlib sur laquelle je mets essentiellement des choses liées à l'émission. Si vous avez besoin de playlists, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Voilà, je vous ai a priori tout dit. Nous allons donc commencer l'émission avec un hommage à Carla Bley, la compositrice, pianiste et chef d'orchestre qui s'est éteinte à l'âge de 87 ans le 17 octobre dernier. Alors, juste avant de passer à la biographie, n'oubliez pas que nous recevons en deuxième partie le saxophoniste alto Pierrick Pedron pour son opus en duo avec le pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba. Voilà, donc vous savez tout. Je voulais juste quand même vous dire et m'excuser auprès de vous d'avoir fait des émissions enregistrées ces derniers temps. Bon, voilà, j'ai quelques, empêchements divers et variés qui m'ont obligé de m'éloigner un petit peu du studio. Mais bon, vous avez quand même pu écouter des nouveautés. Et une ancienne émission qui était en hommage à certains musiciens disparus. Alors, donc, puisque nous continuons dans la nécro... Carla Bley, qui est née Carla Borg, elle est née en Californie le 11 mai 1936 à Oakland, et son père, Émile Borg, était professeur de piano et maître de chapelle, Kapellmeister, comme on dit chez les Teutons. Alors, c'est une famille très croyante, issue de l'Europe du Nord. Hein, Borg, ça vous fait penser à quelqu'un, évidemment, pour les plus anciens. Et en fait, ce père très croyant, il pousse sa fille à chanter et à apprendre le piano dès l'âge de 3 ans. Pour jouer de la musique religieuse, voilà. Donc c'est aussi en même temps une tradition états-unienne très 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 répandue dans toutes les communautés. Et en fait, elle va apprendre en autodidacte et à partir de 5 ou 8 ans et de 5 à 8 ans et elle arrête l'école à 15 ans. Voilà. Alors, sur ce, on a peu d'informations sur sa jeunesse et son enfance. D'ailleurs, à la limite, on s'en fiche un peu. Mais en 1955, elle écoute un album de Théo Macero qui s'appelle What's New, et qui est un album assez avant-gardiste pour l'époque. Et elle, sur le champ, voilà, elle se décide et elle part en voiture et elle arrive à New York. Elle a 17 ans et en fait, elle veut écouter cette musique et elle a pas un rond. Et en fait, elle va travailler comme vendeuse de cigarettes au club Birdland. Et là, elle va, elle va écouter tous les musiciens du Birdland, c'est-à-dire Bud Powell, Monk, Count Basie, qu'elle considère comme son pianiste préféré. Alors là, elle va rencontrer le pianiste Paul Bley, pianiste d'avant-garde, avec lequel elle se marie en 57. Et donc, Paul Bley va l'encourager à composer. Et d'ailleurs, il raconte qu'un jour, il a plus assez de morceaux pour un concert, et il vient la voir en lui disant qu'il lui fallait qu'elle écrive 6 morceaux pour le lendemain. Alors, une petite anecdote quand même qui fait extrêmement froid dans le dos, c'est que elle est très très en doute de ses talents, et son psychiatre de l'époque lui suggère des électrochocs pour l'aider à se débarrasser de l'idée de composer. Donc voilà, si jamais vous rencontrez ce type, s'il est encore vivant, il faut le pendre immédiatement, haut et court. Alors, pendant ce temps-là, Paul Bley engage Ornette Coleman et va être très très impliqué dans le mouvement du free jazz. Alors nous allons écouter, j'avance un tout petit peu vite parce que de toute façon, Carla Bley est une immense compositrice et une immense figure de la musique d'avant-garde américaine, et aussi reconnue en tant que compositrice puisque beaucoup de musiciens vont jouer de ses thèmes, notamment Jimmy Giuffre, George Russell ou Art Farmer, donc vraiment des musiciens plus que confirmés, avec des thèmes qui vont devenir des standards. En 1964, c'est important de le dire, elle rencontre Michael Mantler, qui va être son compagnon pendant de nombreuses années, et ils vont créer tous les deux la Jazz Composer Guild, qui est en fait un collectif de musiciens auto-produits, un petit peu comme le fait maintenant Maria Schneider d'une certaine manière. Et ça a été créé au départ par le trompettiste Bill Dixon, qui était un disciple bouturage successif de Lenny Tristano. À l'intérieur de cette Composer Guild, on va rencontrer des musiciens aussi importants que Roswell Rudd, Archie Shepp, Don Cherry, Milford Graves, Cecil Taylor, Pharoah Sanders, Gatto Barbieri, Leroy Jenkins, Graca Moncur III, etc., etc. Et donc, en 1966, elle va sortir son premier disque, Jazz Realities, avec Michael Mantler, Steve Lacy, le sopraniste, Et à partir de ce moment-là, ils vont créer la JCOA, donc la Jazz Composer Orchestra. Et c'est avec ce label, qui va devenir donc un label, elle va en faire plusieurs, elle va créer un truc absolument incroyable à la fin des années 60, c'est l'OVNI musical Escalator Over the Hill. Nous allons écouter un extrait. Donc ça a été enregistré, ça a été composé à la fin des années 60, enregistré entre 68 et 70. Juste en 66, dernier point, sa fille Karen Mantler, donc la fille de Karen et de Michael, va naître en 1966. D'ailleurs, assez étonnant à quel point la fille joue la similitude physique avec sa mère, même coiffure, quasiment la même tête, enfin, et elle joue aussi du piano. Voilà. Donc, on va écouter maintenant un extrait, un court extrait de cet album, de ce triple album qui a été une sorte de truc assez dingue. On a fait évidemment allusion à l'opéra de Katsu de Kurt Weill, Bertolt Brecht, à beaucoup de choses de cet esprit-là où elle a dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle avait écouté Kurt Weill uniquement quand elle avait 30 ans. Bon voilà, alors est-ce que elle avait un don de voyance? Nous n'en savons rien et nous n'en saurons rien. Toujours est-il que cet album est absolument sidérant. Je vous donne quelques musiciens qui y participent. Il y a Paul Haynes qui chante et qui est le poète. Il y a Jack Bruce, le bassiste des Cream. Linda Ronstadt, la chanteuse de variété. Sheila Jordan, la chanteuse de jazz. Jan Lee également. Karen Mantler. Gatto Barbieri au ténor. Jimmy Lyons, Don Cherry, Enrico Rava, Jimmy Napper, Roswell Rudd, Howard Johnson, donc c'était l'hommage qu'on a écouté la dernière fois en rediffusion, Leroy Jenkins, Don Preston, John McLaughlin, Sam Brown, Charlie Aden, Carl Berger, Paul Motion, etc. Vous voyez un peu le casting absolument platine, doré, avec serti de diamant. C'est parti, Laurent. 15 libres, Radio Libertaire. Désolé de couper le sifflet, mais c'est une œuvre très longue, puisque à l'époque, le coffret sorti était de 33 tours. Hein, donc, vous voyez, c'est une œuvre très, très longue, très ambitieuse, avec beaucoup de choses. Je vous recommande, évidemment, l'écoute de cet album, et de nombreux autres albums, d'ailleurs. Hein, bon... Je passe très vite puisque on a très peu de temps. Je voulais juste vous dire que elle a à son actif en tant que leaduse environ 21 disques en studio et 14 en public et une quarantaine avec d'autres musiciens, donc notamment évidemment. Alors, avec Steve Swallow, puisque Steve Swallow est devenu son autre compagnon lorsqu'elle s'est séparée de Michael Mantler. Chose très importante, nous en avions évidemment parlé, elle a été à l'origine du Libération Music Orchestra de Charlie Adden, où elle va composer et arranger un certain nombre de thèmes, y compris donc le premier, celui de 1969 et celui de 1998 ou 99, je ne sais plus, vous vérifierez. Et donc elle va travailler avec énormément de musiciens, elle va enregistrer donc beaucoup de disques, et elle a également fait la musique de Mortelle randonnée en 83 de Claude Miller. Nous verrons si nous avons le temps. Elle a publié beaucoup d'albums, dont Musique mécanique, qui est celui qui est le plus connu. Elle a travaillé avec Nick Mason, c'est-à-dire le batteur de Pink Floyd, lorsque il a voulu travailler tout seul, dans lequel on entend également Robert Wyatt, le fondateur de Soft Machine. Elle a travaillé avec des musiciens aussi étonnants que Larry Willis, Hiram Bullock, Victor Lewis, Don Alias. Bon voilà, donc quelqu'un qui va un peu chercher dans pas mal de directions. Elle est également, il faut le noter, en 90, professeure invitée au collège de William et Mary à Williamsburg. Et elle va tourner en Europe pas mal de fois. Moi, je l'ai vu, évidemment. The Very Big Carla Bley Band, qui a été nommé au prix de l'Académie du Jazz. Voilà. Donc, elle se sépare de Michael Mantler en 91, s'installe avec Steve Swallow, le contrebassiste. Hein. Elle va aussi enregistrer avec Liu Soloff, qui est un trompettiste qui... avait commencé avec un groupe pop-rock Blood, Sweat and Tears. Et elle va jouer également avec Paolo Fresu. Et elle va, pendant longtemps, même jusqu'à la fin de sa vie, travailler en trio avec Andy Shepard au ténor et au soprano, en faisant de magnifiques concerts, de magnifiques disques, de musique très chambriste, très, très intime. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'elle s'est évidemment énormément considérée comme compositrice et arrangeuse, mais qu'elle utilisait le piano comme juste un accessoire de composition et ne s'est jamais considérée comme pianiste. Et il lui a fallu beaucoup de temps pour franchir le cap d'aller vers l'expression du piano. Donc c'est pas du tout une virtuose, elle est pas du tout dans cette démarche, et d'ailleurs c'est ça qui est tout à fait surprenant. Nous allons écouter un extrait de l'album en public à Copenhague dans 88 qui s'appelle Fleur carnivore. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire. Donc voilà, je voulais quand même vous donner la capacité de cette compositrice à arranger et en fonction également des musiciens, puisqu'elle a composé pour de nombreux musiciens, dont notamment Art Farmer, Don Ellis, Yann Garbarek, Jimmy Giuffre, magnifique, Steve Kuhn également, Steve Lacy, John McLaughlin, Jacob Pastorius, Michel Portal, George Russell, Tony Williams, Eberhard Weber, Phil Woods, Attila Zoller, etc. et Gary Burton, pour lequel elle a composé ce magnifique Genuine Funeral Tong, c'est-à-dire les vraies funérailles Tong, c'est-à-dire chinoises. Et c'est absolument absolument génial. Voilà, donc je vous recommande évidemment toutes sortes de choses, hein, pratiquement toute la discographie. Et donc, comme le temps passe vite et que je veux absolument ne pas louper les choses, je voudrais vous faire écouter un extrait justement de ce trio très chambriste avec Andy Shepard, Steve Swallow et Carla donc au piano, qui donne quelque chose d'absolument magnifique. Et donc là, nous allons écouter un extrait d'un concert qui s'appelle Ups and Downs, c'est-à-dire des hauts et des bas, qui date de, je ne sais pas, je pense que ça date des années 90, hein, voilà, pour être clair. Donc Andy Shepard est un, voilà, ils ont créé quelque chose d'absolument magnifique. Alors bon, d'un point de vue personnel, c'est une comment dire, une formation que j'apprécie beaucoup, puisque je l'ai beaucoup pratiquée, c'est-à-dire cette formule de trio contrebasse, saxophone et piano. Là, la seule différence, néanmoins, c'est que Steve Swallow joue de la basse électrique. Alors, c'est une basse électrique électro-acoustique, comme on dit. Enfin, pas tout à fait électrique, mais avec une caisse de guitare traditionnelle qui donne un son un peu particulier, un peu boisé. C'est pas tout à fait le même son que les basses électriques habituelles, et évidemment pas complètement le même son qu'une contrebasse, mais c'est tout à fait intéressant. C'est parti, Laurent. Eh ben, c'est parti. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire. Alors évidemment, cette formation n'est pas sans rappeler les débuts de Carla Bley lorsqu'elle composait pour le trio Paul Bley, Jimmy Giuffre et Steve Swallow, justement. C'est un peu un retour aux sources de fait. Donc, ce que je disais, c'est que par rapport au piano, elle s'y est mise beaucoup plus tard que les autres. Elle a joué quotidiennement les 51 exercices de Brahms, mais ce qui l'empêche pas d'être très peu, très peu sûre d'elle sa pratique du piano. Je la comprends. Moi aussi. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et donc là, nous allons écouter alors une magnifique composition qui s'appelle Lawns, c'est-à-dire les pelouses, en duo, Carla et Steve Swallow. Elle au piano et lui à la basse électrique. Et je vous recommande d'ailleurs d'écouter une magnifique version de Kurt Elling en public au Festival de La Haye en Hollande, absolument somptueuse, mais vraiment avec Marky Hill à la trompette et puis son groupe quasi habituel derrière lui. Et c'est vraiment, voilà, c'est une magnifique composition, une magnifique simplicité apparente, une sorte de dépure. Et je trouve que dans cette période bavarde, voire même criante, ce type de musique fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, c'est parti, Laurent. Jazz Libre Radio Libertaire, très très belle composition. On voit que finalement, avec peu de notes, mais tellement bien choisies dans la structure de l'accord, dans la progression harmonique, dans le jeu subtil et absolument ultra sensible de Steve Swallow à la basse électrique, avec ce son très boisé, hein, on n'est pas du tout dans un son des basses bastons qu'on peut trouver dans d'autres musiques, très proche de l'esprit de la contrebasse. Il est évidemment contrebassiste, hein, puisque les premiers trios avec Jimmy Giuffrè, il jouait de la contrebasse. Voilà. Et d'ailleurs, il a joué avec Henri Texier, hein, on en avait parlé à l'époque. Donc, voilà, c'est une grande perte. Elle nous a quittés à l'âge de 87 ans avec un cancer au cerveau. Elle avait été déjà opérée en 2010 et elle avait enregistré un disque qui s'appelle Life Goes On, que nous allons écouter dans un instant. Je voulais aussi mentionner le fait qu'elle a plus d'une vingtaine de récompenses, distinctions et autres médailles généraux russes, hein, comme vous savez. Notamment les référendums du Donbass, qui sont vraiment une référence étalon aux États-Unis. Elle est docteur honoris causa de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, donc c'est assez étonnant. Voilà. On va écouter, si nous avons le temps, un extrait de son dernier album. Mais avant, je voulais vous donner comme information le fait que je vous avais parlé de cette chanteuse qui s'appelle Judith Owen, qui sera au New Morning le 8 décembre prochain. Elle sera accompagnée par David Torkanowski au piano, Dave Blankhorn à la guitare, Kevin Louis au cornet, Ricardo Pascal au saxophone, Lex Warszawski à la contrebasse et Pedro Segundo, batterie et percussion. Donc nous allons nous quitter sur cet hommage avec un extrait de son dernier album qui s'appelle donc Life Goes On, la vie continue. Voilà, c'est c'est un bon épitaphe, on va dire. Et en attendant, et nous n'aurons pas le temps d'écouter Mortelle Randonnée, mais nous aurons peut-être éventuellement le temps d'y revenir. Voilà, je vous laisse en compagnie de ce disque, en attendant l'arrivée de Pierrick Pedron. Thank you.
Thank you.